19h, bientôt 17, on passe au sport. Le journal des sports qui nous est présenté ce soir par Vincent Pellegrini. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Yves.
Et vous commencez par la 18e journée de Ligue 1 de football, l'Olympique Lyonnais qui recevait à l'instant le Stade Rennais dans un duel d'Européens.
Lyon qualifié cette semaine pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Rennes éliminé de la Ligue Europa, mais ce sont les Rennais qui se sont imposés. Bonsoir Christophe Vincent.
Bonsoir Vincent.
En direct du Groupama Stadium, et c'est une victoire assez logique pour le Stade Rennais, 1-0.
Oui, et la bronca du Groupama Stadium pour cette 7e défaite des Gones en championnat a retenti à la fin de ce match. Les Lyonnais ont salué le virage nord du rond central sans s'approcher. Et en réponse, le COP les a copieusement sifflés. Logique, vu la prestation de ces Lyonnais incapables d'effectuer une prestation convenable 5 jours après avoir arraché leur qualification en 8e de finale de la Champions League. L'OL n'a jamais été en mesure de marquer, hormis peut-être à la 84e minute quand le gardien Mendy a repousser les tentatives de Cacré et Traoré. A l'inverse, 3 jours après avoir battu la Lazio de Rome pour du beurre, Rennes a récidivé, les Bretons ont su profiter des espaces laissés par ces Lyonnais et ils ont arraché la victoire à la 89e minute grâce à Camavinga. Les Rennais du coup grimpent à la 4e place du classement provisoire et les Lyonnais replongent dans le doute.
Alors, vous le disiez, Christophe, ambiance assez tendue entre les joueurs de l'OL et leur public. On sait qu'il y a eu des incidents mardi soir à l'occasion du match contre Leipzig. Ça a été de nouveau tendu ce soir.
Oui, quand même. L'hommage rendu avant la rencontre à Bernard Lacombe a un petit peu détourné l'attention des supporters sur la légende du club qui quittera l'OL à la fin du mois après 50 ans de présence. Et mis à part une banderole furtive, on va le dire assez obscène, à l'adresse de Marcelo, le Brésilien qui est un petit peu la cible de ses supporters et qui a généré la bagarre, l'incident qu'il y a eu, enfin le début d'incident qu'il y a eu mardi soir après le match de Leipzig entre le capitaine Memphis Depay et une partie de ses supporters. Eh bien, on n'a pas eu ce soir de rebondissement et simplement les supporters, on l'a dit, ont salué de loin et se sont dépêchés de rentrer au vestiaire. Et les supporters se sont contentés de siffler, sont repartis dépités. Visiblement, on n'en restera pas là car la crise, du moins dans ses rapports supporters-joueurs, n'est pas encore réglée.
Merci Christophe Vincent, direct de Lyon. Vous le disiez, en marge de cette rencontre, un hommage a été rendu à cette figure historique de l'Olympique Lyonnais, Bernard Lacombe, qui a 67 ans, va donc prendre sa retraite au sein de l'OL. Bernard Lacombe a occupé de nombreux postes, joueur, entraîneur, directeur sportif, conseiller du président Jean-Michel Aulas. Aujourd'hui, Bernard Lacombe estime que c'est le moment de tirer sa révérence.
J'ai mûrement réfléchi parce que ça fait quand même presque 40 ans que j'ai arrêté le foot. J'ai arrêté en 87 et on est en 2019. Et comme je dis, il y a 50 ans, c'est quelqu'un qui est venu me le dire. Je me rappelais du match, mais je ne savais pas qu'il y avait 50 ans. J'ai joué mon premier match en première division le 7 décembre 1969. Et j'ai eu la chance de marquer mon premier but contre le Restart. Et ça faisait 50 ans, là, le 7 décembre 2019.
Et ce match-là, apparemment, vous êtes prévenu la veille que vous allez être titulaire, c'est ça, ou vous allez rentrer en jeu?
La veille, je suis arrivé avec ma mobilette au stade, et Mémigno me dit, tu joues. Fleury Dinalo a 42 fièvres, il est malade, et c'est toi qui joues. En plus, j'ai joué ailier gauche, avec le numéro 11, et puis j'ai eu la chance que c'est André Guy, qui était un grand avant-centre de l'équipe de France à l'époque, c'est lui qui m'a fait marquer le deuxième but, ou j'ai marqué le premier, je ne sais plus, mais ça a été un moment extraordinaire.
Les souvenirs de Bernard Lacombe au micro de Cédric Guillou. Cette 18e journée s'achève ce soir avec le déplacement du Paris Saint-Germain à Saint-Étienne. Le PSG assuré du titre de champion d'automne après le nul de l'OM hier à Metz, un partout. Bonsoir Rodolphe Montagnier.
Bonsoir Vincent.
Vous êtes en direct du stade Geoffroy Guichard. Alors entre le PSG, incontestable leader du classement, et une équipe stéphanoise 10e qui plus est affaiblie par plusieurs absences, le combat semble assez inégal ce soir.
Oui, c'est vrai qu'il y a effectivement un gouffre effectivement entre cette formation parisienne et cette formation stéphanoise. En plus, c'est dans un contexte un petit peu délicat côté forésien puisqu'on reste sur 2 défaites consécutives cette semaine. C'est à la Reims il y a la semaine dernière, dimanche dernier très exactement, en Ligue 1 après une autre défaite. C'était à Rennes en déplacement, autre défaite en déplacement, simplement scandée par cette victoire face à Nice. Mais voyons, une semaine un peu délicate, surtout marquée par la défaite du côté de Wolfsburg jeudi dernier. C'était en Ligue Europa et ça Stadnais terminer une campagne européenne bien médiocre du côté de la AS Saint-Etienne, éliminée dès sa phase de poule. Et vous le disiez, une AS Saint-Etienne qui en plus doit faire face à de nombreuses blessures. Romain Mouma, le dernier en date, blessé justement jeudi dernier en Allemagne. Mais on peut rajouter Franck Honora, Wahbi Khazri, Charles Abi, William Saliba, Yohan Cavaille, sans oublier Timothée Kolozejak qui est suspendu. Vous voyez, vous le disiez donc, une formation stéphanoise qui ne partira pas favorite face à ce Paris Saint-Germain qui traînera donc son titre de champion d'automne ce soir, avec notamment un joueur, Neymar, qui n'a jamais foulé la pelouse de Geoffroy Guichard dans sa carrière. Ce sera donc sa grande première et on le craint énormément du côté des supporters de l'AS Saint-Etienne.
Merci Rodolphe Montagné en direct du stade Geoffroy Guichard. Coup d'envoi de ce Saint-Etienne PSG à 21h. Le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais qui connaîtront demain midi leur adversaire en 8e de finale de la Ligue des Champions. Tirage au sort donc de ces 8e à Nyon en Suisse. Cet après-midi, Strasbourg s'est imposé à Bordeaux 1-0. Bordeaux 7e du classement. Les Strasbourgeois de leur côté remontent à la 14e place. Alexis Pinturo en démonstration aujourd'hui à Val d'Isère. Il s'est imposé dans le slalom de Coupe du Monde. Cela faisait 5 ans que le skieur français n'avait pas remporté un slalom de Coupe du Monde. Lui qui a obtenu la grande majorité de ses succès en géant. Mais aujourd'hui, sur la face de Bellevarde, Alexis Pinturo a été impressionnant. À Val d'Isère pour France Inter, Guillaume Batin.
Alexis Pinturo a écrasé la concurrence dans les deux manches du slalom. 59 centièmes de mieux que le jeune américain Luke Winters dans la première manche. Il enfonce le clou dans la seconde en reléguant les trois poursuivants, Mirreur, Gross et Christoffersen après d'une seconde et demie. Alexis Pinturo.
Ici, ce qui est assez particulier, c'est que je crois que j'ai rarement gagné en me disant « Waouh, aujourd'hui je me suis frisé les moustaches ».
Alexis Pinturo !
Une victoire devant la famille, les amis, avec le champagne, la Marseillaise. Et les larmes de son entraîneur, Fabien Munier.
Forcément, t'es ému quand c'est en géant et tout. Il a un palmarès en géant qui fait qu'on s'y attend un peu. Mais là, en slalom, l'année dernière, on a vu qu'il revenait. Il rate une médaille aux mondiaux pour rien, alors qu'il skie très vite. Et de le faire ici, c'est beaucoup d'émotions, c'est des belles émotions.
Grâce à cette 25e victoire en Coupe du Monde, Alexis Pinturo repasse en tête du classement général de la Coupe du Monde avec 21 points d'avance sur l'Autrichien Henrik Christoffersen. À Val d'Isère, Guillaume Batin, France Inter.
D'ailleurs, après Val d'Isère, une autre station française, Courchevel, accueillera mardi une épreuve de Coupe du Monde, un géant féminin, avec notamment l'américaine Michaela Schifrin et la française Tessa Worley. La Coupe du Monde de biathlon faisait étape ce week-end à Orfilsen, en Autriche. Le relais français sans Martin Fourcade, laissé au repos, a terminé 3e d'une course remportée par les grands favoris, les Norvégiens. Victoire norvégienne également dans la poursuite d'âme, enlevée par Tyril Eckhoff. Première française, Justine Breza. Quatrième. La quatrième journée de la Coupe d'Europe de rugby, Clermont a préservé ses chances de qualification pour les quarts de finale cet après-midi. Dans un groupe où les Irlandais de l'Ulster sont en tête, les Clermontois n'avaient pas le droit à l'erreur à domicile face aux Anglais de Bath. Ils n'ont pas fait dans la demi-mesure en s'imposant 52-26 face aux Anglais de Bath, en empochant un point de bonus au sang offensif. Dans cette Coupe d'Europe, à l'issue des quatre premières journées, deux autres clubs français sont bien placés pour se qualifier pour les quarts de finale, le Stade Toulousain et le Racing 92. Angers a accueilli ce week-end les championnats de France de natation en petit bassin, avec en vedette Florent Manaudou. Il était de retour en compétition en France pour la première fois depuis qu'il a renoué avec sa carrière de nageur en juin dernier, après 3 ans d'absence. Il a glané à Angers 2 titres en individuel sur 50 mètres nage libre et 50 mètres papillon. Ces championnats de France ont permis de faire le point sur l'état de forme des nageurs tricolores à 7 mois des JO de Tokyo, alors que la natation française avait été au plus bas aux Jeux de Rio en 2016. Alors Jérôme Val, peut-on être un peu plus optimiste ?
Eh bien, en tout cas, ça va mieux après avoir touché le fond de la piscine. Souvenez-vous, aucune médaille d'or aux Jeux à Rio, une première depuis 16 ans, une toute petite délégation de 9 nageurs seulement aux Mondiaux l'année suivante. Alors face à un tel échec, la direction technique nationale a changé en 2017. Nouvelle manière de fonctionner, nouvelle pratique aussi pour accompagner cette nouvelle génération qui doit assurer la relève. Et ça commence à porter ses fruits, estime Julien Issoulier, le DTN.
On a une natation qui est en train de se diriger vers un bon niveau. Maintenant, la marche reste haute encore. On peut dire qu'on a une natation d'un niveau européen. Il reste à accéder au niveau mondial. Et pour ça, il va falloir du temps.
Mais du temps, cette équipe de France pourrait en manquer. Les Jeux, c'est déjà dans 7 mois. Et avec une telle échéance, le DTN est lucide. La France aura des ambitions modestes.
Nous, on a envie de rassurer la natation. Tokyo, on sait qu'on n'aura pas 50 médailles en natation. Ça, c'est une certitude. Par contre, si on en a 2-3 et que ça permette de tirer les autres et de lancer quelque chose, ça c'est vraiment intéressant pour la suite.
L'expérience des nageurs sortis de leur retraite cette année sera déterminante à l'approche de la compétition. Florent Manodou, bien sûr, mais aussi Amaury Levaux ou Grégory Mallet, des exemples à suivre.
Pour Florent, c'est vrai qu'il a un charisme qui fait que ça amène les autres. C'est pas lui qui va dire « Allez les gars, on est là pour se taper dans la main », mais mine de rien, par sa présence, par ce qu'il engage et ce qu'il fait, ça laisse de la place aux autres en fait.
Le rendez-vous à ne pas rater maintenant, ce sont les championnats de France en avril avec en jeu les qualifications pour les JO. Angers, Jérôme Val, France Inter.
Les Pays-Bas succèdent à la France au palmarès du championnat du monde féminin de handball. Les Néerlandaises ont battu l'Espagne sur le fil cet après-midi, 29-28. Premier titre mondial pour les handballeuses néerlandaises qui ne faisaient pas partie des favorites de ce mondial. À la tête de cette équipe, un Français, Emmanuel Maillonnade, qui est également l'entraîneur de l'équipe de Metz, champion de France en titre, Jean-Pierre Bimont.
Emmanuel Maillonnade vient de réaliser un coup de maître embauché par la fédération néerlandaise en septembre dernier. 3 mois plus tard, il conduit les Pays-Bas au titre mondial et pourtant ce championnat a débuté par une défaite. Emmanuel Maillonnade.
Quand on perd le premier match, le soir je rentre dans la chambre et je me dis donc c'était pas simple. On a essayé de faire avancer un tout petit peu la structure, un tout petit peu en bout de course avec l'arrêt de 2 stars qui n'avaient pas été remplacées. Donc je me dis on va mettre des jeunes, mais bon je m'étais dit waouh, à mon avis cette affaire-là elle va pas durer longtemps quoi. C'est beau.
Jour de gloire pour Emmanuel Maillonnade, dit Manu, qui est aussi depuis 4 ans l'entraîneur de Metz. Avec Brest, c'est l'une des 2 équipes principales du hand féminin en France.
C'est vraiment un métier différent. On n'entraîne presque jamais, quoi. Je fais de la vidéo, du management, et des discussions, et de la tactique, et des trucs comme ça. Mais j'ai pas le sentiment d'avoir plus de travail qu'à Metz, quoi. Voilà, sauf qu'après, effectivement, j'essaie d'être un tout petit peu plus succinct. Donc ça a été très, très, très complexe.
Avec cet exploit, à seulement 36 ans, Emmanuel Maillonnade doit maintenant mener les Néerlandaises vers une autre conquête, celle du titre olympique. Avec ce titre mondial, les Pays-Bas sont directement qualifiés pour les JO de Tokyo.
Alors, on rappelle que très décevante dans ce championnat du monde, les Françaises n'ont terminé qu'à la 13e place, mais elles aussi disputeront les JO de Tokyo. Cette menace du président de la Fédération française d'athlétisme, André Giraud, alors que l'athlétisme tricolore a été sévèrement secoué ces derniers mois par plusieurs affaires de dopage, il veut que les athlètes qui ont été suspendus, ne serait-ce qu'une fois pour des pratiques dopantes, ne puissent plus jamais être alignés en équipe de France. André Giraud.
On a toujours combattu le dopage depuis 20 ans et on continuera à le battre, même si aujourd'hui, malheureusement, il y a encore des tricheurs qui circulent. Donc il arrive un moment que l'athlète qui triche, il est parfaitement au courant de ce qu'il fait. Donc ça, c'est aussi une atteinte à l'image de notre sport. Et il faut à un moment donné que on ait des mesures encore plus fortes pour dissuader les tricheurs. Depuis le 1er mars, il appartient à l'Agence française de lutte contre le dopage de prononcer les sanctions disciplinaires. Les fédérations n'ont plus le droit de sanctionner des athlètes qui sont contrôlés positifs ou qui enfreignent les règles. Par contre, l'accès à l'équipe de France, qui dépend de la fédération, là, nous avons parfaitement le droit de l'appliquer.
Le président de la Fédération française d'athlétisme, André Giraud, avec Clément Comte.